L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Mais vraiment, j'avais dans mon cœur de vous amener ce message-là parce que, de un, au Québec, souvent on dit que Dieu est bon, on le dit de notre bouche, mais on y croit pas vraiment. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on a toutes sortes de pensées au sujet de Dieu, comme quoi Dieu fait des choses terribles, et comme quoi c'est sa volonté de faire des choses terribles, où Dieu permet toutes sortes de choses terribles, et puis nous, les enfants de Dieu, on croit que Dieu est bon, mais en même temps, on croit que Dieu agit d'une façon mauvaise. Et ça, je crois vraiment qu'il faut revenir à la parole de Dieu et être cohérent. Si vous dites de moi, bien, Joël, c'est un bon papa, bien, à ce moment-là, vous allez voir que j'aime mes filles, n'est-ce pas? Vous allez voir que j'aime mes filles et que je suis un bon papa. Mais si je donne toujours des claques dans le visage de mes deux filles, vous me voyez là, puis je suis en train de leur donner des fessées dans le visage, allez-vous dire, c'est un bon papa? Probablement pas. Mais, sûrement pas. Mais pourtant, avec Dieu, on dit que Dieu est bon, mais c'est juste comme une expression. Le bon Dieu, on dit que Dieu est bon, mais finalement, Dieu peut faire toutes sortes de choses mauvaises, et on dit, c'est correct, et ah ben les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Et puis finalement, le Dieu qu'on est en train de prêcher aux gens autour de nous, c'est un mauvais Dieu, et les gens de l'extérieur se disent, moi je veux rien savoir de ce mauvais Dieu-là. Et on a publié les mauvaises choses, on a publié les hauts faits de Satan, ok, je dis les hauts faits, on a publié les œuvres de Satan au lieu de publier les hauts faits de Dieu. Et je crois on doit vraiment avoir cette conviction dans nos cœurs que Dieu est vraiment bon. Si on croit vraiment que Dieu est bon, ça va nous protéger comme Église. Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un de l'Assemblée qui me partageait un petit peu ses échanges avec quelqu'un dans des croyances, moi je pourrais dire, erronées au sujet de Dieu. Comme quoi Dieu, c'est un Dieu méchant. Mais pourtant la personne est chrétienne, c'est une personne qui aime le Seigneur, mais dans ses croyances, cette personne-là croit que Dieu est méchant. Parce que Dieu agit d'une façon méchante. Et au Québec, on va entourer, on va côtoyer des gens qui croient que Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu méchant. Peut-être ça vous surprend, peut-être ça ne vous surprend pas, mais ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? On va plonger nos regards dans la parole de Dieu pour voir est-ce que le Dieu de la Bible est bon ou est-ce qu'il est méchant. Si Dieu est bon, on va discerner toutes les choses qui se passent autour de nous, on va le voir à la lumière de la bonté de Dieu. Amen? Amen. Et savez-vous, ça nous protège. Parce que des fois, on peut lire des textes et dans d'autres semaines, on va voir d'autres passages dans la parole de Dieu où des fois, on peut se poser des questions. Parce que, en passant, c'est une série qu'on commence ce matin sur la bonté de Dieu. Alors, si vous avez besoin d'une thérapie, vous allez voir que Dieu est bon. Manquez pas une seule réunion parce qu'on va voir la grandeur de sa bonté, si on peut comprendre même. On pourra jamais saisir la grandeur et tout ce que Dieu peut faire pour nous et tout son amour pour nous. Mais si on peut juste goûter une portion, cette portion-là va nous aider à discerner toutes les autres choses dans nos vies. Et quand quelqu'un arrive avec un passage qui semble dire que Dieu est méchant, vous le savez dans votre cœur, vous avez une révélation que mon Dieu est bon et puisqu'il est bon, si ce passage-là me pose des problèmes ou si je me questionne, c'est parce que j'ai juste besoin d'avoir plus de révélations sur ce texte-là. Dieu ne change pas de personnalité tout d'un coup. Comprenez-vous? Dieu est toujours bon, il ne change jamais d'humeur. Dieu ne se réveille pas du mauvais côté du lit un jour et dit « Bon, combien de personnes que je vais tuer un matin avec un cancer? Je me suis vraiment là levé, là, puis je suis pas de bonne humeur, alors toi, bon, tiens, je suis satisfait pour aujourd'hui. » Dieu n'est pas comme ça. Mais pourtant, on prêche ça au Québec et dans la francophonie. Et moi, je rends gloire à Dieu pour le site enseigne-moi.com, parce qu'avec Jérémy et le site enseigne-moi.com, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on peut prêcher une révolution sur la bonté de Dieu. Amen. Et des gens partout à travers la francophonie entendent ce message et ils vont savoir, et il y en a d'autres aussi qui prêchent la même chose, que Dieu est bon. Dans les années 50, Oral Roberts a prêché « God is a good God ». Dieu est un bon Dieu. Il y a plusieurs années, j'ai dit à mon père, je m'en allais prêcher au Nouveau-Brunswick. Et dans mon esprit, Il y a une parole qui est venue, ça me disait, Dieu, c'est un bon Dieu. God is a good God. Et quand je suis arrivé là-bas dans l'auditorium à Bathurst au Nouveau-Brunswick, j'ai commencé la réunion en disant, God is a good God. Et tout le monde m'a applaudi. Et j'ai dit à mon père, j'ai dit, hey, le Seigneur m'a donné une révélation. Dieu, c'est un bon Dieu. Et mon père m'a dit, Joël, il dit, en 1950, Oral Roberts disait, Dieu est un bon Dieu. Moi, je ne le savais pas. Hein. J'étais pas là en 1950. Je pensais que c'était ma révélation. Mais ça peut être tellement notre révélation qu'on la porte comme si c'est notre révélation. Que Dieu est un bon Dieu. Ce matin, si vous n'apprenez rien d'autre, sachez que Dieu est bon. OK? Si vous savez, dans votre cœur, Dieu est bon et Dieu agit d'une bonne façon. C'est tout à fait normal de croire que quelqu'un qui est bon va être rempli de bonté. Amen. Et vous allez voir ce matin que c'est biblique, qu'est-ce que j'enseigne. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va pencher nos têtes, on va remettre cette portion-là au Seigneur. Seigneur Dieu, on vient devant toi encore une fois. Et Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui nous affranchit. Ta parole qui est la vérité. Seigneur, on veut croire ta parole et on veut croire que tu es bon. Seigneur, je viens contre tout esprit de mensonge dans cette place, tout esprit de tradition qui voudrait garder les gens liés dans le mensonge. Et au nom de Jésus, je décrète la liberté que tout le monde ici va recevoir la révélation que tu es bon. Et que le diable qui prêche un évangile que Dieu est mauvais, que cet évangile-là va prendre la porte. Au nom de Jésus, merci pour ton esprit, Seigneur, qui nous guide dans toute la vérité. Au nom de Jésus, amen. Amen. Vous savez, le diable réussit. S'il nous réussit à nous faire croire que Dieu est mauvais, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il remplace les rôles. C'est lui qui est mauvais, en passant. Le diable est mauvais, le bon Dieu est bon. Et quand je priais cette semaine, et même, finalement, je me suis couché à 2h du matin la nuit passée parce que ce message-là était encore dans mon cœur. Ma femme est surprise. Hein? Elle dormait. Mais dans mon cœur, c'est ça. Et hier matin, je me suis réveillé avec le psaume 145 dans mon cœur. Alors, je sais que c'est le verset pour vous. Pas le verset, mais le passage. Et faut vraiment revenir à cette base-là dans notre Église. Parce que quand on a ça établi vraiment fermement, toutes les autres choses qui peuvent venir contre nous, on va toujours voir ces choses-là à la lumière de la bonté de Dieu et on va se sentir dans la paix du Seigneur. Et une autre chose, dans Romains 10, c'est juste avant d'aller dans notre texte principal, c'est dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, on a eu beaucoup de nouvelles personnes aussi parmi nous. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de la bonté de Dieu. Et si ça fait 25 ans qu'on est au Seigneur, et pendant 25 ans, on a entendu parler que Dieu est bon, oui, mais en pratique, il est méchant. On ne le dira jamais comme ça en passant. Hein? On ne le dira jamais du haut de la chair. Dieu est bon, mais il est méchant en même temps. On ne le dira jamais comme ça. On ne le présentera pas aussi cru, mais dans la pratique des choses, on va dire ça. Vous savez? Et on va accuser Dieu de toutes sortes de choses. J'ai été dans des funérailles, quelqu'un qui s'était suicidé, et le pasteur a prié, « Oh, merci Seigneur, tu es venu le chercher. » Non, le Seigneur n'est pas venu chercher quelqu'un qui s'est suicidé. Voyez-vous comment on peut mélanger des concepts à cause de la souveraineté de Dieu? On dit que Dieu est souverain, et dans sa souveraineté, Dieu se sert de nous comme des robots. Non, Dieu n'a pas de robots. Nous sommes des êtres humains et nous avons le choix de décider qu'est-ce qu'on va faire avec notre vie. Soit la donner à Dieu ou soit la garder pour nous-mêmes et pour Satan. Alors, Dieu est bon et ce matin, on va voir ça. Et c'est pour ça que la foi vient de ce qu'on entend. Si votre foi a été nourrie avec un mensonge, vous devez faire le ménage aujourd'hui et déraciner ces mensonges-là. Amen. Il faut déraciner les mensonges concernant la bonté de Dieu, en fait, ou la méchanceté de Dieu. Et cette semaine, je conduisais mon auto, je m'en allais rencontrer Jérémy pour travailler sur des choses de l'école biblique. Dans mon auto, j'écoutais un enseignement à la radio. Et à la radio, vous savez, on trouve toutes sortes de choses. Et pendant que j'écoutais, l'enseignement nous disait, ben, faut pas s'attendre trop concernant le Seigneur. Peut-être Dieu nous a appelés à vivre des petites choses. Et là, l'enseignement disait, bien, vous savez, il y en a des pasteurs qui sont appelés juste à être un pasteur dans le fond d'un rang, dans la campagne, et c'est très loin, éloigné. Et peut-être Dieu a appelé ce pasteur-là à être un pasteur juste d'un petit troupeau. Faut pas s'attendre nécessairement d'avoir une grosse église. Faut pas s'attendre nécessairement à vivre des grandes choses. Peut-être faut juste se contenter avec les petites choses. Et C'était tout dans un vocabulaire spirituel, religieux, avec des versets à l'appui sur des petites choses. Mais savez-vous, ça là, c'est l'évangile du diable. Imaginez si on est tous contentés à vivre des petites choses. Mais le diable, lui, ne se contente pas à vivre des petites choses. Vous irez à Las Vegas et vous allez voir que son royaume aime ça être gros. Hein? Le diable aime ça prendre de la place et nous, il voudrait qu'on recule et qu'on soit des petites églises. Bon, ça se peut qu'un pasteur dans la fin fond du bois n'aura pas une église aussi grosse qu'une église à Montréal, qui a une grande population. Il y a des choses pratiques. Mais savez-vous que dans son village, si 5 000 personnes dans son village, qu'est-ce qui dit que 5 000 personnes ne peuvent pas être sauvées et aller dans son église et devenir une méga church, une église méga? Pourquoi? Ben, il est dans le fin fond d'un petit village. Ben, si Dieu sauve tout le village, ça devient une grosse église. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, là, écouter des affaires comme ça à la radio, des fois, parce que c'est des instruments pour voler la foi des gens. C'est comme, contentez-vous à rien. Non, c'est pas ça la Bible. On ne se contente pas avec des petites choses. On se contente avec la vérité de la parole de Dieu. C'est pour ça que la foi vient de ce qu'on entend. Et si vous avez entendu tout le temps des choses comme ça, faites le ménage. C'est le temps de rentrer dans des plus grandes choses pour nos vies. Moi, je suis pas satisfait aujourd'hui, puis je ne le serai pas demain. Oui, il faut se contenter si on est dans la disette ou l'abondance. Oui, il y a des temps comme ça, il faut dire, mon Seigneur, c'est Dieu. Et puis, peu importe dans qu'est-ce que je vis, je vais être content avec lui. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que j'ai pas de vision pour l'avenir. On peut prendre des textes hors contexte et puis en faire toutes sortes de choses, des prétextes, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, bon, gloire à Dieu, on n'annulera pas la parole de Dieu par notre tradition, mais aujourd'hui, on va avoir le psaume 145 pour nous bénir. Amen. Amen. Donc, mon intro, c'est un tiers de la prédication. OK, lisons ensemble. Psaume 145. C'est un long texte. On va prendre le temps de méditer sur ce texte-là parce que ça m'a super béni et je pense que ça va vous bénir aussi. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Ça veut dire qu'on ne prend jamais congé de louer le Seigneur. Vous êtes chez vous? À chaque jour, on bénit le Seigneur. Dans le psaume 103, David a dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, ça ne nous tente pas de bénir le Seigneur et de le louer. Mais David disait, « Mon âme bénit l'Éternel. » Il est en train de dire, « Ah ouais, mon âme. Ah ouais, Joël, bénis le Seigneur. » Des fois, ça ne vous tentera pas, mais ça dit, « À chaque jour, je te bénirai. » Prenez la résolution. À chaque jour dans votre maison, bénissez le Seigneur. Quand vous vous réveillez, vous dites, vous mettez vos deux pieds à terre. Je te bénis, Seigneur, que cette journée est déjà bénie à l'avance. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu, tu es un bon Dieu, tu es un Dieu merveilleux. OK, on continue. Chaque jour, je te bénis. Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. Moi, savez-vous qu'est-ce qui me fait capoter de ce texte-là? L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. La grandeur de Dieu, c'est tellement phénoménal. Cette semaine, j'écoutais les nouvelles et j'ai entendu parler de l'étoile gigantesque. En avez-vous entendu parler? Cette étoile, elle s'appelle, je vais vous dire le nom, c'est R136A1. C'est un beau nom, hein? Je pense que si on avait d'autres enfants, ce serait peut-être le nom de notre... Non, mais ça, c'est le nom de l'étoile. Je vous donne des informations concernant cette étoile-là, parce que c'est assez phénoménal. En fait, c'est l'étoile, la plus grosse étoile jamais découverte dans l'univers. OK? Moi, quand j'écoutais ça, je me disais, ces scientifiques-là, ils nous disent toutes sortes de choses qu'ils pensent connaître. Finalement, des fois, ils se présentent comme s'ils connaissent tout. Hein? Ils sont là, ils nous racontent des choses, des théories scientifiques. Mais finalement, il y avait cette étoile gigantesque qui est 300 fois plus grosse que le soleil, mais ils ne l'avaient jamais remarqué. Non, mais c'est vrai. Moi, ils l'ont jamais remarqué. Savez-vous pourquoi? Parce que l'univers, c'est grand. Et Dieu est plus grand que l'univers parce que Dieu, c'est le créateur de l'univers. Mais c'est ça que moi, je trouve capotant. Dieu est grand. Et les êtres humains ont passé à côté de cette étoile. Et je vous donne les dimensions pour ceux qui sont intéressés. La Terre, c'est 12 756 kilomètres en diamètre. Ça, c'est la Terre, 12 756 kilomètres. Le Soleil, c'est 1 392 000 kilomètres en diamètre. Le diamètre, OK, de l'étoile, R quelque chose, c'est 20 millions C'est ça. 20 millions de kilomètres, c'est ça? 2000000000. C'est beaucoup. C'est très, très grand. Juste pour vous dire, je pense que c'est 20 millions de kilomètres. OK, 20 millions de kilomètres. Écoutez bien, la planète Terre, comparativement à cette étoile, c'est un grain de sable, juste pour vous imaginer. Et ces êtres humains scientifiques qui pensent tout savoir n'avaient pas remarqué cette grosse étoile. Moi, savez-vous qu'est-ce que ça me dit? Dieu est grand. Dieu est grand. On est petit, on a besoin de lui. Et on a besoin de connaître la splendeur de qui il est. Alors moi, ça me réjouit de plonger regard dans la parole de Dieu. Amen. Alors tout ça pour dire, on continue dans la lecture. L'Éternel est grand, est très digne de louange et sa grandeur est insondable. Là, on peut dire amen encore plus. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. C'est pour ça que quand on chante les merveilles de Dieu, on ressent l'onction de Dieu. Parce que Dieu habite la louange de son peuple. Quand vous vivez des temps difficiles, louez le Seigneur et vous allez ressentir sa présence. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Dieu est juste et Dieu est bon. Verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Ici, il faut que je m'arrête encore. Vous savez, des fois, on a chuté peut-être même pendant 10 ans et puis on se culpabilise. Peut-être pendant 20 ans, puis on se dit « Dieu m'a rejeté ». Dieu est en dehors du temps. Savez-vous ça? Dieu n'habite pas. Dieu n'est pas confiné par le temps. Dieu n'a pas de date de naissance. Il n'y a pas une journée où il va mourir. Dieu est en dehors du temps. Alors pour vous, 10 ans, c'est énorme, mais pour Dieu, c'est rien. Alors ne vous sentez pas coupable, revenez à Dieu. Revenez à Dieu. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère. Les êtres humains sont beaucoup plus vite à la colère que Dieu. Les êtres humains vont juger, savez-vous ça? Il y a des gens qui passent leur temps à juger les uns les autres. Mais Dieu est lent à la colère et plein de bonté. Quand on est plein de quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour d'autres choses, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas de place pour d'autres choses. Si on est plein de bonté, ça veut dire que Dieu est 100% bon. Il n'y a pas 25% de son caractère où il y a une mauvaise humeur et des fois il se défoule sur nous. Non, il est 100% bon. Il est plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Êtes-vous un tous ce matin? On va le relire. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ses compassions sont pour vous ce matin. Dites-le, ses compassions sont pour moi. Donc, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Il n'y a personne. Si Dieu est pour moi, qui peut m'opposer? Si Dieu est pour moi, qu'est-ce que les hommes peuvent me faire? Amen. Si Dieu est pour vous. Moi, je suis ici ce matin pour vous dire que Dieu est pour vous. Dieu est pour vous. Dites-le, Dieu est pour moi. Là, on va le dire comme si on y croit. Dieu est pour moi. Quand on fait ça, là, on est en train de briser des mensonges religieux. Dieu est pour nous ce matin. Dieu est de notre côté. Dieu n'est pas là pour nous écraser. Dieu est là pour nous relever. Amen. Dieu est bon. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Savez-vous ça? Dieu, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Ça veut dire qu'il y en a qui vont tomber parmi nous. Savez-vous ça? Mais Dieu n'est pas là pour nous casser les jambes quand on tombe. Il est là pour nous soutenir. Amen. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Si vous avez marché courbé, le Seigneur est là pour vous relever. Gloire à Dieu. Les yeux de tous espèrent en toi. Et tu leur donnes la nourriture en son temps. Savez-vous, les yeux de tous espèrent en Dieu. parce que c'est la source, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Écoutez bien le prochain texte, 19, verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Vous allez voir plus tôt. Je pense là, ça va être une série d'au moins deux réunions, trois réunions, parce que je n'ai vraiment pas avancé dans mes notes. Mais ça va être capotant quand on va voir d'autres versets. Parce que ce texte-là, il y a tellement de richesses qu'on va voir ensemble. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le premier point ce matin que je voulais voir avec vous, c'était la nature de Dieu. On vient de le voir ensemble. Et le verset 8, quand j'ai lu le verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Savez-vous, quand on va dans l'hébreu, le texte bonté ici, ça nous dit que Dieu est prédisposé à nous démontrer ou à nous donner des faveurs, que c'est la nature de Dieu. Amen. C'est vraiment ça. En anglais, c'est « disposed to show favors » ou en français, il est « disposé dans son cœur ». Sa nature pour nous, c'est une disposition naturelle. Il est incliné à démontrer des faveurs auprès de ceux qu'il aime. Amen. Et c'est bien bon de savoir que Dieu est bon, mais il faut aller plus loin. Il faut ensuite savoir, bon, oui Seigneur, tu es bon, mais en même temps, tu as des désirs. Et moi, je veux apprendre à te connaître intimement et je veux aussi connaître tes désirs pour moi, pour ma vie. Est-ce qu'on peut regarder ensemble quelques textes concernant le désir de Dieu? Là, ici, là, je suis en train d'être l'avocat du bon Dieu pour vous laisser savoir que véritablement le Seigneur est pour vous. Si jamais vous pensez que le Seigneur n'est pas pour moi, aujourd'hui, vous allez voir que le Seigneur est de votre côté. Mais on va regarder un premier texte dans le psaume 132. Le psaume 132, et on va aller au verset 13. Juste une chose ici, quand Dieu met sa main sur un territoire, on voit que Dieu a une destinée. Et quand Dieu met sa main sur quelqu'un, il a une destinée aussi pour cette personne-là. Le psaume 132 et le verset 13 et 14, ça dit, « Oui, l'Éternel a choisi Sion, ou Israël, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai, car je l'ai désiré. » Voyez-vous ici, quand Dieu veut quelque chose, il désire quelque chose, ça donne qu'il va l'avoir. Nous, on peut regarder une BMW et dire, « Je désire cette BMW. » Mais ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir, n'est-ce pas? Mais Dieu, s'il désire avoir quelque chose, il va l'avoir. Dieu, il sait comment avoir, qu'est-ce qu'il veut. Amen. Ici, on va regarder ensemble le psaume 149. Et le verset 4 à 5. Ici, on va regarder un peu ensemble les désirs de Dieu. Parce que c'est vraiment bénissant. N'oublions jamais ce que Dieu désire vraiment. Dans le psaume 149, verset 4 à 5, c'est dit « L'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les tuant. » Non, 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 non. Ça, c'est un autre évangile. Non, il glorifie les malheureux en les sauvant. Amen. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Quand les gens veulent vous calmer et vous encourager à vraiment vous attendre à vivre une petite vie et de ne pas vous attendre de grand-chose de Dieu, rappelez-vous que pour faire plaisir à Dieu, vous devez croire ce que Dieu croit. Et ce que Dieu veut pour vous, il dit ici, Dieu prend un plaisir à glorifier le malheureux. Si vous connaissez quelqu'un qui est malheureux ou si vous êtes malheureux, faites donc plaisir au bon Dieu. Laissez-le vous sauver. C'est ça que ça nous dit. L'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie le malheureux en les sauvant, ou les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent. Savez-vous que Dieu aime ça quand ses fidèles triomphent? Quand ses fidèles sont dans la victoire, Dieu prend plaisir à ça. Ça prend plaisir. Le Seigneur se réjouit pour nous. Ensuite, ça dit qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Jusqu'à temps qu'on se couche, même le soir, on peut crier et dire, merci Seigneur que tu m'as sauvé. Merci Seigneur parce qu'avant, j'étais lié, mais tu m'as délivré. Alléluia. Même sur ma couche, je peux crier des cris de joie. Ben, c'est pas normal. Justement, c'est ça qu'on veut. On veut être anormal. On veut être des chrétiens qui crient de joie parce qu'on a goûté à la bonté de Dieu. Si vous dites, ben, je l'ai pas goûté la bonté de Dieu. Ben, goûte-y. C'est le temps. C'est l'heure aujourd'hui. Faut goûter à la bonté de Dieu. Amen. En anglais, ça dit, taste and see that the Lord is good. En français, goûtez, voyez. Voyez. Comment? Ben, goûtez, voyez que l'Éternel est bon. Amen. Venez faire un test. Une dégustation. Voir que Dieu est bon, que les fidèles triomphent. Ah, mais là, ça, c'est juste un verset qui dit que l'Éternel triomphe, que ses fidèles triomphent. Ah, non, il y en a un autre. J'en ai trouvé un autre pour vous sécuriser. Dans 2 Corinthiens 2, 14, ça dit, « Je ne puis que remercier Dieu, il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. » Je vais relire parce que je pense que vous n'avez pas compris. « Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. » Vous êtes des victorieux. Vous êtes associés toujours avec ce cortège-là de victorieux, de ceux qui sont en train de triompher. Pourquoi? Il y a une raison. Par notre union avec lui. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance du Christ. Voyez-vous ici un cortège triomphal? Si on pouvait prendre chaque personne de l'Église ici, on se mettait en rang et on marchait la tête haute. Nous sommes dans le cortège de la victoire, cortège triomphal. En Christ, on marche la tête haute, rempli de victoire, rempli de joie, rempli de paix. On est délivré, on n'est pas lié par l'ennemi. Amen. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? À cause de nous, parce qu'on est meilleur que les autres? Non, certainement pas. À cause de notre union, c'est-à-dire par notre union avec lui. Quand on est en Christ, on est avec celui qui est déjà vainqueur. Alors, quand je marche en Christ, je suis dans ce cortège de la victoire et ça s'adonne que moi aussi je vis cette victoire parce que Jésus l'a déjà payé pour moi il y a 2000 ans. Par notre union avec lui, il se sert de nous pour répandre dans tout lieu comme un parfum la connaissance du Christ. Quand les gens nous voient, ils voient vraiment comme le visage du Seigneur Jésus parce qu'ils voient la victoire imprégnée sur nos visages. Amen. Mais c'est impossible d'avoir la victoire imprégnée sur nos visages ou la joie si on croit que tous nos problèmes viennent de Dieu. Si Dieu est notre raison de souffrance dans la vie, bien, on n'est pas en train de faire une belle publicité, on est en train de parler aux gens et dire tout ce qui va mal, puis c'est toute la faute de Dieu. Oh, puis Dieu est en train de me façonner. Vous savez, il faut faire attention. Et oui, on peut passer à travers des épreuves. Dans Jacques chapitre 1, ça dit « Réjouissez-vous quand vous passez à travers les épreuves, parce que ça va vous rendre plus fort. » Mais c'est les épreuves de la persécution. Hein? Quand on est persécuté pour la cause de Jésus-Christ, on devient encore plus fort. Mais un petit cancer, ça ne vient pas glorifier Dieu. Vous lirez la Bible, et si vous n'êtes pas convaincu de ça, vous irez allez écouter les 4 enseignements sur la guérison divine. Vous allez voir dans la parole de Dieu que quand les gens louent le Seigneur, c'est quand il y a quelqu'un de guéri. On prie pour quelqu'un qui était malade et la personne a été guérie surnaturellement. C'est là que les gens se réjouissent. Dans la parole de Dieu, ça dit, ils se mettaient à sauter, à courir, à se réjouir dans le Seigneur quand ils voyaient des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui glorifie le nom du Seigneur? C'est quand on répand le parfum de Christ partout. Donc, on voit le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est de glorifier les malheureux en les sauvant et de voir les fidèles en train de triompher. Amen. 2 Pierre 3, 9. Le désir de Dieu. Ici, c'est une doctrine, là. On va dire c'est une doctrine parce que, véritablement, il y a des gens qui vont lire ce texte-là et qui ne croient pas ce texte que je vais vous lire. Dans 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça veut dire que Dieu veut sauver tout le monde. Dieu a un désir dans son cœur et c'est de sauver chaque personne qui va se tourner vers lui. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va être sauvé? Non, parce qu'il y a des gens qui refusent le Seigneur Jésus. Mais tous ceux qui disent oui, gloire à Dieu, c'était dans le cœur de Dieu que cette personne-là l'accepte. Mais qu'est-ce qu'on va voir, et probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va se pencher sur des questions traditionnelles, des textes sur l'élection, la prédestination. On a regardé ensemble dans le disciple victorieux le cours qu'on a donné, vraiment sur ces passages-là, qui sont souvent les textes que les gens prennent pour siphonner la foi des gens. Comme ça, les gens vont dire, « Ah, oh, ben Dieu aime tout le monde, mais moi, d'après moi, je trouve ça tellement dur vivre la vie chrétienne. D'après moi, j'ai pas été choisi. Dieu n'avait pas choisi que j'irais au ciel. Donc moi, je suis probablement prédestiné pour vivre l'enfer. Alors qu'est-ce que tu veux? Je peux pas me battre contre la volonté de Dieu. Et là, on sort des textes, on sort Romains chapitre 9, hors contexte. Et puis là, on prêche ça comme quoi Dieu veut sauver certaines personnes, mais pas d'autres. Et savez-vous que ça circule dans nos églises au Québec? C'est à la radio. J'en entends souvent. À la radio, ça revient. Et puis là, on va parler avec des gens, mais les gens, des fois, ils vont avoir de la misère à l'expliquer comme ça, ou c'est cru. Mais moi, je vous dis la vérité, qu'est-ce que ça vient comme conclusion? C'est que Dieu dit, toi, tu vas être sauvé. Non, pas toi. Toi, oui. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Parce qu'on vient de le lire, j'aimerais ça vraiment que vous puissiez l'avoir dans votre cœur. Ça dit dans 2 Pierre 3:9, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pourquoi est-ce que Dieu veut sauver tout le monde? C'est parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Voyez-vous, quand quelqu'un vous amène des versets, vous apporte certains textes sur l'élection, la prédestination, même si vous n'avez pas encore les explications que je vais vous donner la semaine prochaine, au moins, vous pouvez savoir, est-ce que le bon Dieu ferait ça? Juste arrêtez, que ce soit votre règle de mesure, si on veut, pour évaluer la situation. Est-ce que le bon Dieu ferait ça? T'sais, toi au ciel, pas toi. Oui, toi. Est-ce que c'est comme ça que Dieu agit? Non. Dieu est bon. Est-ce que vous connaissez un père qui dit, ben toi, je t'aime, toi, non, toi, on va te, ben il y en a des êtres humains peut-être, mais Dieu n'est pas comme ça. Hein? Parce que je ne veux pas vous entendre répondre. Oui, j'en connais. Non, mais savez-vous, Dieu est amour et Dieu est bon. Dieu est amour et Dieu est juste. Et à cause de sa justice, le péché devait, il y avait un salaire au péché. Le salaire du péché, c'est la mort, comme vous savez. Mais Dieu est tellement bon qu'il ne voulait pas qu'on vive le châtiment du péché. Alors, il l'a payé à notre place. Voyez-vous, la nature de Dieu, Dieu est amour et Dieu est bon. Mais si on n'a pas cette conviction-là dans notre cœur que Dieu est vraiment bon, on va se faire avoir. Vous savez, je peux prêcher ça aujourd'hui, mais peut-être si je ne prêche pas sur la bonté de Dieu, en dans 6 mois, vous rencontrez des gens. Là, ah oui, c'est Dieu qui t'a envoyé ça. Ah, okay. Non, je pense que vous allez vous en rappeler. Hein? Ça fait un an et demi qu'on est ouvert. Mais je pense que les gens avec nous, vous savez que Dieu est bon. Mais il y en a des gens, ils disent, vous allez côtoyer d'autres personnes, d'autres chrétiens qui aiment le Seigneur. On dit, oui, Dieu est bon, mais finalement, là, quand on va vraiment au fond et savoir qu'est-ce qu'ils croient au sujet de Dieu, moi, je ne voudrais même pas être ami de ce Dieu-là. C'est vrai? Il y a toutes sortes de choses erronées qu'on accuse Dieu. Mais Dieu est vraiment bon. Et on va aller même plus loin. Dans le psaume 35, verset 27, je vais vous lire dans la Bible du Sommeur, ça dit que l'Éternel est grand, lui qui désire, qu'est-ce qu'il désire Dieu? Le bonheur de son serviteur. Dieu désire votre bonheur, savez-vous ça? Dieu veut que vous soyez joyeux. Mais ce mot-là, bonheur, c'est pas assez. En anglais, je vais vous dire, savez-vous ce que ça veut dire en anglais? Prosperity. Oh, je le sais. Faut que je fasse attention, c'est un mot sale au Québec. Mais le mot prospérité, ça veut dire shalom, rien de manquant, rien de brisé. Ça veut dire que Dieu veut que Joël, veut que Mathilde, il veut que tout le monde dans cette église, chaque personne qui ait rien de manquant dans sa vie, rien de brisé. C'est ça qui fait plaisir à Dieu. Si vous manquez de nourriture, vous avez de la misère à vous nourrir, Dieu ne se réjouit pas de ça. Savez-vous ça? Dieu ne se réjouit pas. Si vous avez de la misère, vous n'arrachez, Dieu ne se réjouit pas de ça. Vous êtes malade dans votre corps, Dieu ne se réjouit pas de ça. Parce que je viens de lire dans la parole, ce qui fait plaisir à Dieu, qu'est-ce qui fait plaisir ici? L'Éternel est grand, lui qui désire le shalom, le bonheur de Dieu. C'est ça que Dieu désire pour vous. Mais pourquoi que c'est si dur à croire? Bien, parce que ça fait 25 ans qu'on se fait dire que Dieu ne nous aime pas. On ne le dit pas comme ça, mais on le dit de toutes sortes de façons fleuries. « Ah, Dieu dans sa grandeur, oui, merci Seigneur, parce que tu es venu chercher notre frère qui s'est pendu ou s'est tiré une balle dans la tête. Merci Seigneur, tu l'as fait. » Faut arrêter de croire des discours anti-bibliques. Dieu dit, ici, il prend plaisir au bonheur. Et en français courant, savez-vous que ça dit? Il prend plaisir ou il désire la satisfaction de son serviteur. Êtes-vous satisfait aujourd'hui? Bien, peut-être que vous êtes satisfait avec votre rencontre avec le Seigneur, mais dans votre vie, à tous les jours, terre à terre, est-ce qu'il y a des dimensions dans votre vie qui auraient besoin d'amélioration, peut-être? Oui? Ah, bien, continuez à croire Dieu jusqu'à temps que vous êtes satisfait. Attendez jusqu'à temps que vous êtes satisfait. Et là, quand tout va être parfait, vous glorifiez Dieu davantage. Mais jusqu'à temps que vous arriviez à cette place de satisfaction totale, vous louez le Seigneur tous les jours. Amen. Voyez-vous, on sait comment être contenté en chemin vers la destinée, mais on sait que Dieu veut qu'on soit vraiment, vraiment satisfait, qu'on soit vraiment dans le bonheur. Amen. Ça, là, si vous trouvez quelqu'un qui ne croit pas ça, rappelez-vous, c'est psaume 35, verset 27. Dans psaume 91, là, on a parlé ici, il désire nous satisfaire, mais comment? Comment est-ce que Dieu veut nous satisfaire? Le psaume 91, verset 1, ça dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et au verset 16, ça dit « Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Je le rassasirai de longs jours. Quand on rencontre quelqu'un qui est malade à l'hôpital et qui se fait dire que cette personne-là est mourante du cancer, moi j'ai posé la question une fois, j'ai dit « Êtes-vous rassasié? » Non. Ça veut dire que Dieu veut que vous viviez plus longtemps. C'est ça que ça veut dire. Êtes-vous rassasié? Non. Dieu a dit dans sa parole, le psaume 91, verset 16, « Je le rassasirai de longs jours. » C'est ça qu'il dit. Croyez-vous la Bible, oui ou non? Oui, même tante Jacqueline, elle croyait en Dieu, est morte avant d'être arrivée. Tante Jacqueline, c'est tante Jacqueline. Vous, vous êtes vous. N'essayez pas d'emmener des excuses pourquoi ne pas croire Dieu. Notre problème, c'est qu'on excuse Dieu. On dit, ben c'est écrit dans la Bible, mais on sait que ça marche jamais parce que tante Jacqueline, tante Rita, tante Rosalène, on a 10 000 excuses et toutes sortes d'illustrations qui nous démontrent toutes ces personnes-là qui n'ont pas reçu la promesse. Mais notre foi, est-ce qu'elle est dans nos expériences de vie ou dans la parole de Dieu? Faut que ça soit dans la parole de Dieu. Oui, mais ça dérange pas. Je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas tout, mais je crois à la Bible. Peut-être rendu au ciel, là, je vais comprendre pourquoi tante Jacqueline, elle s'est pas rendue jusqu'à 120 ans ou 110 ans, 115 ans. Peut-être rendu au ciel, je vais savoir. Et je vais jamais la juger. Je jugerai personne, mais je vais continuer à croire, moi, que je vais vivre de longs jours. Pourquoi? Est-ce que je suis un extrémiste? Oui. Extrêmement en amour avec Dieu. Et sa parole? Mais la Bible, ça dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas violent à croire ce que Dieu dit, vous allez vous faire avoir et le bon Dieu va devenir un mauvais Dieu dans quelques minutes. Parce que les gens vont vous convaincre que Dieu n'est pas vraiment bon. Et Dieu, dans sa sagesse, a pensé de faire ça. Non, si ça contredit Dieu, la parole, si ça contredit la parole, moi, je ne vois pas plus loin que la parole. Amen. Vous non plus. Amen. Donc, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Le salut, ce n'est pas juste de passer de la mort à la vie. Oui, c'est ça la plus grande chose, d'avoir notre nom écrit dans le livre de la vie, qu'on va passer l'éternité avec Dieu au ciel. Mais ça, c'est l'entrée dans le salut. Savez-vous ça? C'est juste le premier pas dans le salut. Le salut, là, c'est la délivrance complète de toutes les œuvres de Satan. C'est ça le salut. On a limité le salut à être juste sauvé de l'enfer. Oui, c'est glorieux d'être sauvé de l'enfer, mais le salut, c'est une délivrance totale et complète. C'est pour ça que c'est écrit, je le rassasirai de longs jours. Comment ça? Parce que, et je lui ferai voir mon salut, parce qu'il va être délivré de toutes les œuvres de Satan. Il ne mourra pas avant son temps. Il va être délivré du cancer. Il va être délivré de l'affaire du sucre, là, le diabète. Il va être délivré de ces choses-là. Oui, mais il est en dépression. Il va être délivré de la dépression aussi. Oui, mais tu ne connais pas ses problèmes. Oui, mais Dieu connaît ses problèmes. Et mon Dieu est plus grand que n'importe quel problème. Arrêtons d'avoir un petit Dieu qui est incapable de rien faire. On a un grand Dieu. Hey, il a créé cette étoile qui est 300 fois plus grosse que notre soleil. Pensez-vous qu'il est capable de payer votre compte d'Hydro-Québec? Oui, il est capable. Il est capable. Arrêtons de limiter Dieu. Mais savez-vous qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est d'avoir une révélation de la parole, qu'on va croire la parole de Dieu. Si nous pouvons tous avoir cette révélation-là, qu'on croit à Dieu et on croit à sa parole, on ne sera pas intimidé, on ne sera pas influencé par personne et on va tous vivre des victoires un après l'autre. Mais Jean-Guy a vécu une victoire avant moi. Je suis un peu jaloux. Sois pas jaloux. Mets-toi derrière lui. Sois dans la même rangée. Toi aussi, tu vas en avoir une victoire. Si on est tous en rang pour avoir une victoire, bien, gloire à Dieu, on va tous être une gang de victorieux. Amen. Faut pas se décourager. Amen. Donc, j'ai juste fait ma première page. Ah, OK. Je vais le lire dans la Bible Sommaire. Le psaume 91, verset 16. « Je le comblerai des jours et je lui ferai connaître mon salut. » Et en terminant, il me reste 5 minutes de gloire. Je vais vous donner une ou deux lois concernant ces choses-là que je suis en train de vous dire. On a vu premièrement les désirs de Dieu. Je vous ai juste lu des versets. Si vous êtes contre ce que j'ai enseigné aujourd'hui, vous pourrez juste dire, il a juste lu des versets, les désirs de Dieu. Hein? Qui sommes-nous pour s'obstiner avec Dieu? Dieu désire glorifier les malheureux. Dites-vous amen. Amen. Dieu désire voir les fidèles en pleine triomphe, triompher. Amen. Il veut nous voir dans le cortège triomphal de Christ. Dieu veut sauver tout le monde. Dites-vous amen à ça. Amen. Dieu est grand et désire le bonheur et la satisfaction de ses serviteurs. Dites-vous amen à ça. Bon, ben, je suis pas anti-scripturaire. Hein? C'est biblique que je vous ai dit. J'ai pas inventé de doctrine. Donc, pouvez-vous croire que je viens de vous dire? Bon, gloire à Dieu. Hey, on est bien parti. Là, restez là. Si vous faites croire ça toute votre vie, vous êtes bien parti. Parce que c'est la Bible. C'est la Bible. Amen. Bon, les lois de Dieu. Une des choses, on peut dire, il y a des grandes bénédictions, des promesses glorieuses en Dieu, mais comment est-ce qu'on fait pour les vivre? Bien, Dieu a établi des lois spirituelles dans le monde, et si nous comprenons ces lois-là spirituelles, nous pouvons les vivre. Amen. Mais si on se fait enseigner des choses carrément contraires à la parole de Dieu, des choses traditionnelles, ça, la Bible dit que ça va annuler la parole. Donc, c'est super important, qu'est-ce que vous entendez? Si vous allez chez vous la semaine puis vous écoutez des prédicateurs qui vous enseignent tout le contraire de ce que je vous enseigne, ça va être impossible pour vous de rentrer dans des victoires. Parce que vous êtes en train d'écouter du poison, la vérité, du poison, la vérité. Enlevez tout le poison. Ça ne veut pas dire que vous écoutez juste Joel Spinks. Écoutez d'autres prédicateurs qui croient les fondements de la foi comme on croit si vous voulez voir des victoires. Amen. C'est juste logique. Vous allez voir un médecin, puis vous dites, « Monsieur le docteur, j'ai toujours mal à la tête. » Oui, bien, je vous donne des aspirines. Ouais, mais ça dérange si je prends un petit peu de poison avec ça, juste pour de temps en temps, j'ai le goût, là, ça me fait du bien. Parce que vous savez, il y a des gens qui aiment ça leur fait du bien d'écouter des prédications qui leur disent « Ah, tu souffles le martyr, c'est correct, Jésus aime ça. Tu souffles le martyr, ah oui, il souffre encore plus, il va être encore plus content. » Puis là, ils sont en train de souffrir, puis « Ah, ça fait du bien, oui, c'est ça que Dieu veut. » Puis là, finalement, je peux me coucher carrément à terre, puis laisser le diable courir, faire une danse, une stepette sur moi, parce que je suis correct, j'ai rien à faire. Non, mais Dieu nous a donné l'autorité. Il dit, « Hey, sous tes pieds, mêle, écrase la tête. » C'est vrai, il faut prendre notre autorité. Je sais que c'est difficile d'être victorieux. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on doit se lever de notre chaise et dire, « Diable, t'es en dessous de mes pieds. Moi, j'ai déjà la terre promise. Elle m'a déjà été donnée. » Amen. Donc, c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. C'est des gens qui ont un petit peu de « guts », des gens qui ont du ventre, du caractère, des tripes. Des tripes, faut se faire violence et croire la parole de Dieu au-delà de nos circonstances. Amen. Alors, je termine dans 2 minutes. Les lois de Dieu, OK. On va regarder le psaume 148, versets 4 à 6. Écoutez bien ceci. « Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. » Dieu a établi des lois. Si nous connaissons ces lois et nous marchons en obéissance à ces lois, nous allons voir le résultat et la récolte des promesses concernant ces lois-là. Est-ce que ça a fait du sens? Une des lois qu'on doit vraiment comprendre, et on va revoir ça la semaine prochaine, mais juste pour vous donner quelque chose, c'est la loi de la foi. Donc, la foi dans Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On verra ça plus la semaine prochaine. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Il y a des gens qui pensent, si je prie longtemps, des heures, je vais peut-être avoir plus de foi. Non, la foi vient de ce qu'on entend. Écoutez plus de prédications. Si vous avez de la misère à croire Dieu pour des miracles, écoutez plus la parole de Dieu jusqu'à temps que vous deveniez plein de ces promesses-là. Amen? Amen. Et en passant, juste pour vous rappeler, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ou de lui faire plaisir. Donc, si on veut faire plaisir à Dieu, on doit devenir des personnes de foi. Parce que la foi, c'est la clé qui va ouvrir la porte à l'héritage qu'on a en Jésus-Christ. Donc, je vais arrêter là. Parce que sinon, ça va être trop long. OK, je finis avec un dernier verset. Juste, on a vu la loi de la foi. On va en parler la semaine prochaine. La foi, comment le Seigneur se sert de notre foi pour déplacer des montagnes, littéralement. Que c'est une force active qu'on relâche de notre cœur. Mais une autre chose aussi, c'est la loi de la confession. Qu'est-ce que nous confessons de notre bouche? Parce que si vous n'êtes pas là la semaine prochaine, je veux au moins que vous puissiez savoir que si vous mettez la parole de Dieu dans votre bouche, vous avez des armes contre toutes les choses que l'ennemi voudrait faire contre vous. Dans Romains 10, versets 8 à 10, ça dit, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, la délivrance complète. Voyez-vous, c'est en confessant de la bouche la seigneurie de Jésus-Christ dans notre vie. Vous vivez un combat, un problème, décrétez la seigneurie de Jésus-Christ dans votre vie. Amen. Il n'y a absolument rien de trop difficile pour Dieu. Rentrez dans votre maison et louez Dieu. Si vous vivez des combats, saturez votre maison avec des louanges. Décrétez la vérité de Dieu dans votre maison. C'est impossible de perdre la victoire quand vous faites ça. À tous les jours, comme on a lu dans le psaume 145, à tous les jours, je bénirai l'Éternel. À tous les jours, si vous vous dites, ben moi j'oublie de faire ça, rappelez-vous de la faire le matin, avant de toucher le plancher, louez le Seigneur. Dis, Seigneur, moi je te loue, je te bénis, tu es grand, merveilleux. Tu es capable aujourd'hui d'intervenir dans ma vie. Tu es capable, Seigneur, non seulement est-ce que tu es capable d'agir pour moi, mais tu veux, je le sais, ça va même te faire plaisir. Ça va te faire plaisir si je peux aller à l'autre niveau, si je peux vivre dans plus de victoires, si je suis encore plus heureux, plus de bonheur et encore plus satisfait dans ma vie. Je sais, Seigneur, ça va te faire plaisir. Et mon cœur, c'est de te faire plaisir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer ma foi. Comment je vais développer ma foi? En m'exposant à la parole de Dieu. Comment est-ce que je vais faire ça? C'est en étant à l'église dimanche prochain. C'est le truc. Bingo! Alors, je sais que tout le monde va être là, vous allez emmener un ami. Amen. Amen. Penchons nos têtes ce matin. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, on vient devant toi encore une fois. On veut te remercier, Seigneur, pour ton désir pour nous. Seigneur, quand on pense à ta grandeur, comment tu es tellement majestueux, tellement glorieux, Seigneur, et tu as fait tellement des choses qui nous surpassent, et pourtant, Seigneur, tu te préoccupes de nous, des petites créatures miniatures, comme des petites fourmis, Seigneur, tu te préoccupes de nous, et tu connais même le nombre de cheveux sur nos têtes. Seigneur, on est qui pour que tu fasses tout ça pour nous? Mais Seigneur, tu nous aimes. Tu veux qu'on soit dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Aide-nous, Seigneur, à vraiment croire ta parole. Seigneur, fais le ménage dans nos cœurs. Enlève toutes les traditions humaines, les mensonges inspirés par Satan pour nous faire accroire le contraire de qui tu es. Fais le ménage, Seigneur Dieu. Enlève tout souvenir qui est contraire à toi, Seigneur Dieu. Fais le ménage dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur, dans nos âmes. Qu'on puisse vraiment penser comme toi et avoir une haute opinion de toi. Qu'on puisse vraiment publier tes hauts faits partout, sachant que tu es bon. Merci Seigneur Dieu. Et ça, je veux prier pour mes frères et mes sœurs ici. S'il y a des personnes ici qui ont vécu des moments, Seigneur, de tourment, des moments où ils ont été écrasés par les mensonges de l'ennemi, qui se sont fait dire qu'ils sont des moins que rien, qui se sont fait dire que Dieu les rejetait. Seigneur, je prie aujourd'hui pour ces personnes, que chaque personne ici puisse savoir qu'ils sont choisis par toi, qu'ils sont choisis, que tu veux les avoir tout près de toi. Seigneur, que tu es même descendu du ciel, de la gloire du ciel, tu es venu sur la terre ici, et ça serait juste pour une personne. Il n'y a aucun péché qui est trop grand. Il n'y a aucune chute qui est trop profonde. Seigneur, donne-nous ta révélation aujourd'hui, qu'on puisse vraiment le savoir que tu nous aimes avec un amour éternel. Merci Seigneur pour l'œuvre de ton Saint-Esprit qui agit maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.